RCF.
Dans votre livre « Vivre avec l'irréparé », Isabelle Lebourgeois, vous racontez, vous nous permettez de comprendre comment l'irréparable, qui fait irruption dans nos vies parfois, souvent, laisse des traces. Ces traces, c'est ce que vous appelez l'irréparé. Qui peut l'être un jour ? Peut-être. Mais est-ce que vous pensez que tout ce qui est irréparé peut justement l'être ? Ou bien qu'il y a des irréparés qui sont condamnés à le rester ?
Alors quand vous dites les irréparés qui peuvent l'être réparés,
hein,
oui, voilà, je rajoute.
Oui, qui peuvent être réparés.
Bon, pour s'entendre sur le mot réparation, hein, je cite l'art japonais du kintsugi, qui est un art tout à fait intéressant parce que il efface pas la trace, il la magnifie. Hein, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, il s'est passé ça à un endroit et à un moment, bon, et cette brisure, cette cassure, cette blessure, bon, elle est, elle va être magnifiée avec de l'or, voilà, pour la rendre non seulement visible, mais pour dire qu'elle a toute sa place et qu'elle dit quelque chose du processus. Bon. Est-ce que c'est ça une réparation ? Peut-être. Bon, pour les âmes, en tout cas, que je rencontre, ce que je pense, c'est que il y a toujours cette illusion qu'on va se guérir de tout, qu'on va tout effacer. C'est comme avec le pardon. On va demander pardon, on va recevoir l'absolution, et ça y est, c'est effacé. Mais c'est absolument pas le cas. Les choses n'effacent rien, rien n'efface rien. Tout reste. C'est la manière de le vivre, de le faire vivre ou de le laisser vivre en soi, qui va tout changer. Pourquoi est-ce que j'ai tellement peur des conséquences d'un acte que j'ai posé il y a 15 ans, 20 ans, voilà, d'une parole terrible que j'ai dite, d'un accident qui a eu lieu, bon, peu importe, le trauma. Et pourquoi j'en ai tellement peur ? Pourquoi c'est si compliqué ? Alors, si je crois que, en ayant parlé avec quelqu'un dont je pense qu'il va me donner des conseils, des clés de lecture, et que je vais tout découvrir grâce à l'autre, alors d'ailleurs, il va falloir faire attention parce que je ne suis pas ce psy-là, évidemment, hein, et attention à ces psy-là. Bon. Mais si je crois ça, alors il va falloir qu'on s'aide à sortir d'une illusion. Voilà. Tout n'est pas réparable. Non seulement tout n'est pas réparable, mais tout ne sera pas réparé. Ce qui va être réparé, entre guillemets, c'est la difficulté à vivre avec l'irréparé.
Mais le premier,
c'est déjà énorme.
C'est énorme. Mais
c'est énorme.
Vous l'avez déjà dit, c'est-à-dire que le premier pas, c'est en prendre conscience.
Voilà.
Et laisser jaillir ce désir d'aller mieux et d'être libéré dans une certaine mesure de cette souffrance.
Absolument. Il y a un irréparé, alors bon, j'ai pas eu le temps ni la possibilité de parler de tout dans le livre, mais la culpabilité fait partie des irréparés absolument gigantesques. Bon, voilà. On peut se travailler une culpabilité toute sa vie qui va nous empêcher de vivre. Bon. Ça résout rien. Je veux dire, ça résout rien du tout, la culpabilité. Bon. Donc, comment est-ce que je vais à un moment donné faire en sorte que, oui, je vais prendre de la distance suffisante avec tout ça, pour se dire, bon, attends, toute ma vie se résume pas à ça, quand même. Bon, comment je vais apprendre à vivre plus librement dans les pièces de mon château intérieur, comme j'aime en parler, donner cette comparaison, voilà. Et à visiter un peu plus souvent les pièces que j'ai du mal à visiter. Il y a tout ça derrière comme enjeu. Mais la première des démarches, c'est de nommer l'irréparable. D'où ça vient, cet irréparé ? Il vient de quelque part, bon. Tant que je n'ai pas nommé l'irréparable dont il vient, donc je n'ai pas été entendu, écouté et entendu par des oreilles, j'allais dire, suffisamment amies, suffisamment accueillantes, eh bien, je ne pourrai pas nommer ou savoir d'où vient mon irréparé. Et j'en resterai toujours à mes balbutiements, à mes émotions, à mon incontrôlé. Voilà.
Est-ce que ça suppose de toujours avoir recours à un psychothérapeute, psychanalyste ?
Non, moi, sinon, alors tout le monde devrait faire une psychanalyse. Évidemment pas. Bon. Mais ça suppose de tomber sur quelqu'un qui sache écouter. Il y a plein de gens qui savent écouter et qui ne sont pas du tout forcément des psys ou des je ne sais pas quoi. Bon. Mais ce n'est pas parce que vous êtes psy ou parce que vous êtes prêtre que vous savez écouter. Et je dis bien même pour les psys. Les gens connaissent qui ne savent pas écouter. Alors, je prétends pas être la plus grande écoutante de la Terre, évidemment. Hein. Mais quand même, comment dire, écouter, c'est se laisser, j'allais dire, atteindre jusqu'au bout par la parole de l'autre.
Se laisser toucher.
Ah ben oui.
Accepter de se laisser toucher.
Ah oui, et puis que la parole, elle nous rejoigne au plus profond. Mmh. Mon livre, il vient de ça. Hein. Vivre avec l'irréparé, je l'ai écrit parce que j'ai essayé d'écouter les gens jusqu'au bout de ce qu'ils avaient à me dire. Sans leur dire, bon, écoutez, ça, bon, ça va, vous l'avez déjà dit, bon, c'est bon, hein, hop, on s'arrête là. Hein. Vous savez, moi, j'ai été très inquiète une fois d'une psychanalyste qui voulait absolument travailler avec moi, bon, peu importe, hein, et qui me dit, bon, ce qui m'embête, c'est que j'ai aucune expérience, elle avait 60 ans, hein, j'ai aucune expérience des questions d'abus sexuels. Je me suis dit, mais comment c'est possible, ça? Mais elle n'a pas entendu, alors. Elle n'a pas entendu. Parce que forcément, il y en a eu dans son cabinet. Donc, elle n'a pas entendu. Vous voyez, jusqu'où ça peut aller? Ou un autre patient qui me dit, ben, lorsque j'ai parlé, commencé à parler d'un peu d'abus sexuels éventuels dans ma famille, la psy m'a dit, oh, sujet suivant, de toute façon, dans toutes les familles, il y en a. On ne veut pas entendre, c'est facile. Hein.
C'était pas recevable pour cette personne.
Vraisemblablement. On n'est pas psy dans ces cas-là, vous voyez. Ou en tout cas, on fait attention à ses propres limites.
Isabelle Le Bourgeois, pour arriver à nommer, à dire ce qui en nous est irréparé, ce qui nous fait souffrir, ce qui prend trop de place, ce qui suscite trop d'émotions, d'abord il faut probablement du courage. Et puis ça demande un travail de trouver le mot juste ou de discerner finalement c'est ça. C'est pas toujours facile.
Oh non. Et vous dites très bien, il faut du courage. Eh oui, parce que d'aller visiter ces profondeurs, on se doute bien que dans la profondeur, il y a plus, j'allais dire, d'ombre que de lumière. Enfin, a priori. Hein. Mais, et donc, c'est ça qui fait peur. Hein. Puis beaucoup de gens me disent, oh ben finalement, je préfère vivre en sachant pas tout. J'arrive à peu près à gérer. Bon, s'il y a des moments, c'est pas facile, mais j'arrive à peu près à gérer. Puis jusqu'au jour où il y a la crise qui déborde. Parce qu'il y aura l'événement traumatique de trop qui va bousculer
réactiver.
Complètement. Voilà. C'est ce que je dis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est très connu, mais c'est tellement vrai dans nos vies aussi. Sur un truc absolument anodin, tout va basculer. Alors là.
On peut pas faire autrement que de se coltiner cette question quand
là,
ça surgit.
Là, bon, alors là, ou bien alors, on tombe dans des dépressions terribles, dans des incapacités à vivre. On se met à avoir des addictions X, Y, Z, voilà. Et plutôt X qu'autre chose d'ailleurs, voilà. Et ça va servir de paravent, voilà, de cache-misère.
Et en fait, on va être dans une sorte de survie plutôt que de vie avec un grand V. Parce qu'on pourrait, comme vous le disiez, s'en contenter, entre guillemets, ou préférer se maintenir dans cet état-là, parce que vous dites que souvent ça explose, mais pas toujours, finalement. On peut être dans une espèce de malaise, de mal-être chronique, et
absolument.
Puis se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, et
absolument.
Ma vie, c'est ça, quoi.
Absolument. Mais on en connaît plein, hein, des comme ça. Et moi, je leur jette pas la pierre. Hein.
Mais on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour des vies un peu comme ça, bancales. On est fait pour quoi, finalement?
Oh, bon, ça, si je savais. Bon, je veux dire, je suis pas Dieu. Bon, mais il me semble quand même que c'est pas tout à fait ça, une vie. C'est court, une vie, hein. Bon, je le dis d'autant plus maintenant que j'ai quand même quelques dizaines d'années à mon compteur. Bon, mais
vous avez bien une intuition quand même,
oui,
comme religieuse,
oui, donc
comme croyante.
Pas seulement une intuition, disons, j'ai ma foi.
Vous pensez que l'humanité, elle est faite pour quoi? C'est quoi sa vocation?
Elle est faite pour être dans le cœur de Dieu. Et elle est faite pour être avec Dieu, dans son cœur. Bon. Et quand je dis ça, ça peut paraître extrêmement pieux alors que je ne le suis pas. Bon.
Mais dans quel état?
Alors,
est-ce qu'on peut être dans le cœur de Dieu?
Attendez. Ben justement.
En morceaux, en miettes.
Eh bien, on peut être dans le cœur de Dieu en miettes. Voilà. Et je crois qu'il y a des gens qui ne pourront jamais être autrement qu'en miettes. Et ceux-là, j'ai sur eux un regard de très, très grande douceur et de...
Compassion?
Oui, le mot compassion est un mot compliqué, je trouve. Mais en tout cas, je les regarde avec beaucoup de tendresse. Voilà. Je crois qu'il y a des gens qui ne pourront jamais être autrement qu'en miettes. et avoir du mal à recoller deux, trois morceaux. Ils savent bien que c'est compliqué. Bon. Il y a des gens qui pourront jamais sortir de leur dépression. Il y a des gens qui pourront jamais sortir de leur addiction. Peut-être. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas faits pour la même joie d'être dans le cœur de Dieu que moi. Voilà. Je crois qu'on est très inégaux face à la vie. Et qu'on
n'a pas les mêmes ressources.
Oh, oh là là, on n'a pas du tout les mêmes ressources.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est qu'il y a de l'irréparé qui est vraiment irréparable.
Il y a de l'irréparé qui ressemble un peu à de l'irréparable, oui. Mais il est pris, alors je le dis dans une partie de mon livre, il est pris dans la prière collective, cet irréparé-là. Voilà, c'est ce que j'appelle la communion des saints. Hein, c'est-à-dire toute cette capacité que nous avons à nous mobiliser les uns avec les autres, ça c'est ma foi, hein. Là où les autres ne peuvent plus, ceux qui peuvent prennent le relais. Voilà. Et quand ceux-là ne peuvent plus, eh ben, d'autres prennent le relais. Il y a toujours un relais, j'allais dire, qui soutient le monde dans sa manière d'être debout dans la vie, quand même. Voilà. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est la fraternité, le compagnonnage, l'altérité vécue comme ça. Et du coup, la communion des saints.
On vous retrouve demain. Merci Isabelle Le Bourgeois.
Merci, au revoir.